VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Dakar, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. En Afrique du Sud, l'économie la plus industrialisée du continent africain, le taux de croissance a reculé de 0,7% au premier trimestre, selon les statistiques officielles publiées ce mardi. Un deuxième trimestre consécutif dans le rouge qui plonge le pays dans la récession pour la première fois depuis 2009. RDC, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a déclaré aujourd'hui attendre d'ici deux jours des engagements fermes de Kinshasa sur des investigations sur les violences dans la province du Kasaï. Faute de quoi, il se dit prêt à recommander une enquête internationale sur la situation dans cette région. Zeid Rad Al-Hussein s'exprimait à l'ouverture de la 35e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Depuis septembre dernier, le Kasaï est secoué par la rébellion de Kamuina Nsapu, chef traditionnel tué en août 2016 lors d'une opération militaire après s'être révolté contre les autorités de Kinshasa. Selon l'ONU, ces violences ont fait plus de 400 morts et causé le déplacement de 2 300 000 personnes. Mali, une aide de 50 millions d'euros va être attribuée par l'Union européenne aux pays du G5 Sahel pour créer une force conjointe afin de lutter contre la menace djihadiste. La proposition initiale de création d'une telle force remonte au sommet du G5 Sahel de novembre 2015 à N'Djamena. Federica Mogherini, la chef de la diplomatie de l'Union européenne, a fait le déplacement de Bamako pour annoncer la bonne nouvelle. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a indiqué que les effectifs prévus pour cette force avaient récemment été doublés.
Ils ont décidé de mettre en place une force conjointe comprenant tous les pays membres du G5 Sahel avec un niveau initial de 5 000 hommes que les chefs d'État du G5 Sahel ont récemment décidé de porter à 10 000 hommes pour vraiment un maillage plus efficient de nos territoires respectifs. Cette force est chargée de lutter contre le terrorisme parce que dans notre espace aujourd'hui, on se rend compte que malgré la présence de forces internationales à part Barkhane, la MINUSMA n'a pas vocation à lutter directement contre le groupe terroriste. Donc cette force conjointe vient au Mali et dans l'espace du G5 Sahel pour prendre en charge la lutte contre les terroristes.
Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères. Nigeria, l'épouse du président nigérien Muhammadu Buhari, est revenue ce mardi à Lagos après une courte visite à son mari en traitement médical à Londres. C'est ce qu'a indiqué le secrétariat de Madame Buhari. Aïcha Buhari avait quitté le Nigeria mardi dernier pour passer un peu de temps avec son époux, 74 ans, parti le 7 mai pour un congé médical au Royaume-Uni et sur la santé duquel aucune information n'a été apportée. Les causes de sa maladie n'ont pas été officiellement dévoilées, mais le président semble extrêmement affaibli lors de ses dernières apparitions publiques au Nigeria. Au Sénégal, le gouvernement vient d'adopter un projet de loi sur la médecine traditionnelle. Cette loi, approuvée le 31 mai, permettra de réglementer l'exercice et la pratique de la médecine traditionnelle dans le pays, où le débat sur sa nécessité et surtout son efficacité continue de faire rage. Notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay, nous en dit plus.
Pratique très prisée par les Sénégalais, la médecine traditionnelle est cependant très mal acceptée par les professionnels de la santé. Amadou Maktar Gueye, infirmier d'État, étale les limites de ses usages.
Ils ne sont pas outillés. Le président, il passe toujours à côté du diagnostic. Il faut des appareils et des techniciens de laboratoire poser le diagnostic. Une seule personne ne peut pas traiter plusieurs affections. Les affections des yeux, les affections des poumons, de l'appareil urinaire, tout ça. Une seule personne qui dit qu'il peut soigner toutes ces affections. Là, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible.
Pour leur défense, les tradipraticiens comme Salif estiment que leurs services sont très fiables.
Nous vendons des produits qui sont bons et strictement contrôlés avant leur vente. Il y a un mode d'emploi pour chaque médicament, c'est aux clients de les respecter. Nous avons des produits pour guérir les hémorroïdes, la faiblesse sexuelle, les problèmes dermatologiques, la fatigue générale, etc. Nos clients nous sont toujours fidèles, ce qui montre la qualité de nos services.
Ce débat se transpose également chez le Sénégalais lambda. Alousseynou Diallo est foncièrement contre la médecine traditionnelle. Pour lui, rien n'est garanti. avec ces produits non conformes aux réglementations.
C'est pas une question de superstition, mais une question de sécurité. Il y a un dosage dans les médicaments. Et même si ces médicaments traditionnels parviennent à guérir, le dosage n'est pas bon. Parce qu'on nous donne une bouteille, on nous demande de prendre toute la bouteille sans dosage, sans rien du tout. J'ai connu une personne qui a eu des problèmes de reins à cause de cela, parce qu'il a utilisé mal les médicaments traditionnels qu'on lui avait donnés.
Même s'il reconnaît quelques limites à la médecine traditionnelle, Cheikh Moussa Sarr estime que cette pratique peut être bénéfique pour certaines personnes.
J'utilise la médecine traditionnelle, mais pour juste certaines maladies. Et je peux dire, comme le Ndokhoum Siti, tu vois que le traitement, en ce qui concerne la médecine, coûte trop cher. Et si on utilise, par exemple, la médecine traditionnelle, on peut vraiment se guérir de cette maladie. Mais le problème, c'est que parfois, ça nous amène des complications comme la diarrhée et autres. C'est pourquoi je ne l'utilise pas pour toutes les maladies. Mais j'utilise quand même la médecine traditionnelle, mais juste pour traiter ce qu'on appelle le Ndokhoum Siti en Wolof.
La médecine traditionnelle présente certes des dangers, mais son accessibilité la rend très attractive pour beaucoup de personnes. Même si ses limites médicinales sont connues de tous, elle ne cesse de s'imposer comme un moyen de traitement plus ou moins efficace. Le projet de loi récemment adopté par le gouvernement du Sénégal permettra sans doute de réglementer cette pratique et d'en tirer le meilleur profit. À Dakar, pour VOA Afrique, Seydina Abagui.
La Voix d'Amérique en direct de Washington.
En Syrie, les forces démocratiques syriennes FDS, formées de combattants arabes et kurdes et soutenues par Washington, ont commencé aujourd'hui leur assaut contre Raqqa, principal bastion du groupe djihadiste État islamique dans le pays. Nos éléments sont entrés dans le quartier de Mekleb, dans l'est de la ville, a déclaré à l'AFP le commandant des FDS, Rojda Felat. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, confirme l'entrée des FDR dans ce secteur où elles ont pris le contrôle de plusieurs bâtiments. L'assaut lancé mardi vise à asséner un coup décisif au califat de l'État islamique, a déclaré aujourd'hui le général américain Steve Townsend, qui commande les forces de la coalition internationale anti-djihadiste. Le général Townsend a ajouté que l'offensive s'inscrivait dans le cadre d'une bataille plus vaste contre l'État islamique, qui a revendiqué de nombreuses attaques meurtrières, non seulement dans la région, mais aussi en Europe. L'État islamique menace toutes nos nations, pas seulement en Irak et en Syrie, mais dans nos patries, a-t-il souligné. Toujours concernant la lutte anti-djihadiste, le Royaume-Uni a observé ce mardi à 10h temps universel, 11h heure locale, une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat perpétré samedi en plein cœur de Londres, qui a fait 7 morts et des dizaines de blessés, dont 36 sont encore hospitalisés. Une attaque revendiquée par l'État islamique. Les drapeaux sont en berne sur les bâtiments officiels et doivent le rester jusque dans la soirée. Par ailleurs, la police britannique confirme que le troisième auteur de l'attentat de samedi était Youssef Zagba, un Italo-Marocain de 22 ans, repéré et signalé par les services de renseignement italiens. Hier, le commandant de l'unité antiterroriste Mark Rowley avait déjà révélé l'identité des deux autres responsables de l'attaque, Claire Morin-Gibault.
Kerham Butt est un citoyen britannique de 27 ans, né au Pakistan et connu des services de sécurité. Aucun élément n'avait laissé penser qu'il préparait un attentat, a précisé le commandant Rowley. Rachid Redouane avait, lui, prétendu être de nationalité marocaine et libyenne et il était inconnu des services. Il utilisait également une autre identité, celle de Rachid Elkdar. Les deux hommes habitaient le quartier de Barking, dans l'est de Londres, où la police a arrêté plusieurs personnes ces derniers jours. Selon plusieurs médias britanniques, Kerham Butt était apparu l'an dernier dans un documentaire de la chaîne Channel 4, intitulé « Mes voisins les djihadistes », et il avait travaillé pour la régie publique des transports londoniens, TFL.
Et pour terminer, la première conférence mondiale de l'ONU sur les océans est en cours depuis hier à New York. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, y a exhorté les États de la planète à mettre de côté leurs intérêts particuliers pour sauver les océans et éviter une catastrophe mondiale. Yacouba Ouédraogo.
Cette conférence de 5 jours des Nations Unies vise à faire face aux problèmes touchant les océans, comme la montée des eaux ou la surpêche. La réunion doit aboutir à la définition d'une stratégie pour stopper le déclin des océans, protéger au moins 10% des écosystèmes côtiers et marins d'ici à 2020, réduire la pollution océanique et renforcer les moyens de lutte contre la pêche illégale.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.